Philippe, métaphysique à Fribourg, le 1er mars 83, premier cours.
Bon. Avant de continuer, je réponds aux questions posées. Je pense que c'est nécessaire de s'y mettre. Les cinq modalités de l'être en acte apparaissent comme cinq sources d'unité pour l'essence. L'esprit, les puissances vitales et le corps physique. Ne peut-on pas dire alors que c'est la mesure qui caractérise l'unité de l'être en acte? La mesure, en effet, n'est-elle pas la source de l'unité du mesuré? La mesure, c'est ce par quoi l'on mesure. Donc, la source de l'unité du mesuré. Bien sûr, la mesure suppose l'indivision, mais elle semble signifier quelque chose de plus. Nous avions remarqué que l'ousia ne suffit pas pour faire pleinement la distinction entre l'être et le devenir. Oui. Par l'induction, on est en effet au-delà de la quantité et donc de la matière qu'au principe du devenir. Par la mesure, au contraire, on fait intervenir un ordre dans ce domaine qualitatif, quantitatif. La division de l'être en actes et de l'être en puissance éclaire le devenir. Bon, j'espère que vous comprenez. Non, c'est pas... Bon, alors je vais relire, vous savez, c'est comme Molière demandait toujours, n'est-ce pas, vous savez bien, si ça passait la rampe. Alors, je reprends pour que vous voyez bien. Après l'induction de l'acte et de la puissance, nous avons vu les cinq modalités de l'acte. Alors, ces cinq modalités de l'acte, je crois que c'est important de bien les saisir, parce que, de fait, elles nous permettent de mieux saisir la manière dont l'être peut se diviser en acte et en puissance. Je vais renier, laisser le bien, le vrai, opération vitale, mouvement. L'une au niveau métaphysique, philosophie première, toutes sont au niveau de la philosophie première, mais c'est au niveau de l'ousia, si vous voulez. Au niveau de l'ousia. Disons, au niveau de l'ousia, c'est mieux. Au niveau de l'ousia, au niveau de ce que représente l'esprit, la vie et la nature, la matière. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça refait toute la synthèse de toutes les parties de la philosophie par le sommet de la philosophie, comme dit Heidegger. Je crois qu'Heidegger a raison de dire que c'est vraiment le sommet de toute la philosophie grecque, c'est cette division qu'Aristote fait de l'être en acte et de l'être en puissance. Je crois que là, il y a une intuition de Heidegger qui est très vraie, qui nous montre bien que la division de l'être en acte et de l'être en puissance est le sommet de toute la philosophie première. C'est normal, si on est que de là, tout s'éclaire. Comme toujours, un panorama, si vous voulez. Plus vous vous élevez, plus vous avez un regard pénétrant. Donc, comme on est là, en face du sommet, du point de vue de notre intelligence ne pénètre pas plus loin dans l'ordre de l'être que l'être en acte. Mais comme c'est analogique, vous savez bien, ça se fait progressivement et lentement. 45 ans, on commence à être métaphysicien. Si on a commencé à 18 ans, n'est-ce pas ? C'est vrai que si on a commencé à 45 ans, ça met du temps. Et pour Aristote, c'est à 45 ans qu'on commence à être métaphysicien. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai que, de fait, la métaphysique, c'est une question de vie et qu'on ne l'est pas au berceau. Je ne crois pas qu'on a l'intuition de l'être au berceau. Trop difficile. Quand on lance une balle, l'être. C'est merveilleux, ça. Mais je ne crois pas que c'est l'intuition de l'être. C'est tout simplement la connaissance d'une balle. C'est tout. Bon, alors la division de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est vraiment le sommet. Si c'est le sommet, on comprend qu'à partir de là, toutes les parties de la philosophie vont être éclairées. Sous un nouveau regard. Or, première partie, la recherche première de Lousia. Deuxièmement, le point de vue de l'esprit. Quand je dis l'esprit, comprenez bien, il faudrait dire philosophie éthique, ce serait mieux. Philosophie critique. Philosophie du vivant. Philosophie de la nature. Alors je vous ai dit, il n'y a qu'une seule chose, il y a deux choses qui ne sont pas là, présentes. C'est la philosophie esthétique, la philosophie de l'art, et la coopération. Alors on pourrait mettre ici, parce que c'est deux questions qui se posent. Est-ce que de fait cette distinction de l'être en acte et l'être en puissance va illuminer le point de vue de la philosophie de l'art et la philosophie politique? Ce qui est très curieux. Si on a un peu l'esprit critique, c'est qu'on voit que la philosophie de l'art et la philosophie politique ne sont pas immédiatement éclairées par cette nouvelle division. Ça, c'est intéressant, parce que ça montre bien que la philosophie de l'art et la philosophie politique ne sont pas tout à fait au même niveau de pénétration dans l'ordre de l'être. La philosophie de l'art, on reste au niveau de la forme. Or, c'est forme et matière. Forme et matière vont moins loin. Et la philosophie politique, comme elle est liée à la philosophie de l'art et de l'efficacité, n'a pas non plus la même pénétration. C'est le point de vue du bien commun. Le bien commun est trop immanent pour être éclairé par la distinction de la philosophie, par la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Donc, pratiquement, je peux dire et que toutes les parties de la philosophie sont illuminées par cette nouvelle division. Si je cherche le fruit de cette illumination, je vois donc les cinq modalités de l'être en acte et d'être en puissance. C'est important de renouer toute la philosophie, vous voyez. Et alors il y aura à partir de là un nouvel effort que nous verrons au semestre d'été, puisque on m'a demandé de continuer les cours, donc je ferai ça au semestre d'été. On va faire, à partir de la personne humaine que nous allons commencer aujourd'hui, voir le nouvel effort, le dernier effort du philosophe pour atteindre l'être premier. Mais c'est vraiment à partir de la division de l'être en acte et l'être en puissance. Si je n'ai pas atteint la division de l'être en acte et en puissance, je ne peux pas. Qui n'a pas été assez dit, vous voyez, en scolastique. Qui n'a pas été assez dit, on n'a pas assez saisi le mouvement profond d'une démarche philosophique. Forcément, la scolastique provenant, vous voyez, d'une théologie qui se donne comme une théologie scientifique de saint Thomas, on risque toujours de regarder uniquement les résultats. Et on ne voit pas assez le dynamisme profond de l'intelligence qui cherche. Et c'est ce dynamisme profond de l'intelligence qui cherche que nous devons redécouvrir aujourd'hui. On doit redécouvrir ce mouvement de l'intelligence dans sa recherche. La philosophie est une recherche. Une recherche avec des paliers différents, puisque c'est une intelligence qui saisit la réalité et qui saisit la réalité sous des paliers différents. Donc il y a des paliers différents, successifs. Premier palier de philosophie. Philosophie du travail, deuxième palier, troisième palier, on retourne un peu en arrière, quatrième palier, cinquième palier, sixième. Il y a des niveaux différents. Sixième, philosophie première. Toujours un au-delà. La philosophie première, c'est une méta-philosophie de l'art, méta-éthique, méta-politique, méta... On peut très bien dire ça. Donc il y a, si vous voulez, cinq manières de pénétrer dans la philosophie première, en comprenant l'au-delà. Et c'est vrai, c'est l'au-delà. C'est pour ça que l'expérience première par laquelle on entre en philosophie première, c'est une méta-expérience, jugement d'existence. Et puis, dernier palier, alors, dans la philosophie première, deux paliers, l'ousia, et puis un second palier, l'être en acte. Et une fois que j'ai atteint l'être en acte, je suis au sommet, au point de vue de la connaissance intelligible, pas au point de vue du jugement d'existence, mais je suis au sommet de mon toucher à l'égard de ce qui est. C'est le sommet. Alors on comprend qu'à partir de là, tout le reste est éclairé. Il y a une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière sur tout le reste. Et quand je donne les cinq modalités de l'acte, je donne les ta-ta-ta-ta-ta-ta de cette illumination. Mais comprenez bien, ne vous arrêtez pas au résultat, parce que ça c'est anti-philosophique, n'est-ce pas ? Et comprenez l'illumination. Comment la philosophie, comment la découverte de l'ousia et de la qualité sont reprises dans une nouvelle lumière avec l'être en acte et l'être en puissance. Comment la philosophie, l'éthique est reprise, et ainsi de suite. Toutes les parties de la philosophie. Alors, ça, c'est très important de bien saisir. Alors, à partir de là, puisque c'est la question qui est posée, nous avions vu qu'après la philosophie de l'être en acte et de l'être en acte et en puissance, nous avions vu la philosophie de l'un et du multiple. Et je vous disais la dernière fois que la situation de l'un et du multiple n'est pas au sens propre une nouvelle division de l'être. Ce n'est pas une nouvelle division de l'être, parce qu'il n'y a pas une nouvelle induction. L'être un et l'être multiple, ce n'est pas une nouvelle induction, parce que l'un n'est pas principe. L'un est acolyte de l'être, c'est-à-dire il accompagne. Il accompagne l'être, c'est-à-dire ce qui est. Vu du point de vue de l'être. C'est très vrai que le principe est indivisible. Mais la propriété ne regarde pas le principe. La propriété regarde ce qui est en tant qu'il existe. C'est la propriété de l'existence. Il faut bien voir, ce n'est pas la propriété d'un principe. Il n'y aurait pas besoin d'un raisonnement pour dire que l'ousia est une. C'est bien évident, l'ousia est une, puisqu'elle est un principe. Tout principe comme principe est un. Autrement, il n'est pas un principe. Puisque le principe, c'est cela au-delà de quoi je ne peux pas aller. Un principe, par définition, ne peut pas être divisé. Diviser un principe, c'est contradictoire. Vouloir diviser un principe, c'est contradictoire. Donc, que le principe soit indivisible, c'est bien évident. Mais je n'ai pas besoin de démonstration, tout simplement. La connaissance du principe. Tandis que dire que ce qui est un, en tant qu'il existe, toute réalité, du fait même qu'elle existe, et dans la mesure où elle existe, est une. Et ceci, je le démontre par le fait même que toute réalité, du fait même qu'elle est, implique l'ousia. À cause de l'ousia, elle est une. À cause de l'acte, elle est une. Il y a donc à l'intérieur de toute réalité, deux aspects de l'un comme propriété. Comme propriété de ce qui est vu du point de vue de l'être. C'est donc, on est en face de la propriété. Donc la conclusion scientifique. Et quand je suis en face du multiple, je suis en face de le désarroi de l'être. Il y a deux grands désarrois de l'être. Hein. L'aspect qualitatif et l'aspect en puissance. L'être est dérouté quand il est en puissance. Il n'a qu'à l'écouter. Il est dérouté, c'est l'être anarchique. L'être anarchique, il est en puissance. Il va dans tous les sens. Il ne sait plus où aller. Ça, c'est la multiplicité. C'est le désarroi, la multiplicité. Vous savez bien ce que dit Plotin. Il faut de temps en temps entendre. Parce que Plotin dit ça admirablement. Comment se fait-il que tu es dans, comme ça parti dans la distraction? C'est la distraction de l'être. Et c'est la distraction de l'être qui provient de l'être en puissance. Alors vous avez cinq grandes modalités de distraction de l'être. C'est extraordinaire. C'est les distractions de l'être qui sont rattachées. Et vous avez là les distractions de l'être. C'est important de voir ça. Comment l'être peut être distrait? Distrait de son unité. Alors que l'unité, c'est juste l'inverse. C'est l'être qui se recueille. C'est l'être qui s'unifie. C'est l'être qui a cette force extraordinaire de pouvoir s'affirmer. On ne s'affirme que quand on est un. Vous savez, la grande maladie d'aujourd'hui, la perte d'identité. Hein, c'est extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il est, il ne s'affirme plus. Il se noie, tout simplement. Il est dans la distraction. Il a perdu son identité. Perte d'identité. Parce qu'il n'y a plus de métaphysique, alors il y a la perte d'identité. Et alors on est dans la multiplicité, on ne sait plus dans quel sens. Ça peut être des choses très intéressantes dans la multiplicité. Il y a des choses très intéressantes, mais il y a une unité profonde qui disparaît. Bon. Et quand on regarde le point de vue de l'un et du multiple, on voit que l'un est mesure. Et je vous avais dit que la mesure, c'est un principe très particulier, la mesure. La mesure n'est pas un principe d'être. La mesure est un principe de connaissance. C'est un principe de connaissance. Grâce à la mesure, je connais le divisible. Le divisible est mesurable en tant que divisible. Il est mesurable. Et en tant qu'il est divisible, alors, je veux dire... En tant qu'il est mesuré, il est actué. La mesure actue le divisible, pas l'être. Et c'est là où je répondrai. On est la mesure, et c'est pour ça que c'est bien de poser la question comme ça, parce que ça montre bien. Ne peut-on pas dire alors que c'est la mesure qui caractérise l'unité de l'être en acte? Je dirais, la mesure caractérise l'unité de l'être en acte du côté de la connaissance, du côté critique. Ça c'est vrai, du côté critique, mais pas du côté de l'être. Parce que la mesure ramène le point de vue de l'être par rapport à la connaissance. C'est par rapport à la connaissance le point de vue de la mesure. Or, l'être doit être au plan métaphysique, doit être regardé en lui-même. Et donc, c'est là... l'unité. Il faut aller jusqu'à l'acte pour comprendre l'unité de l'être. Donc ne peut-on pas dire alors que c'est la mesure qui caractérise l'unité de l'être en acte alors? Vous voyez, caractériser. C'est pour ça que ce sont des mots qui sont très très bons. Parce que quand on dit caractériser, qu'est-ce que ça veut dire? Manifester, oui. Alors caractériser, si caractériser veut dire manifester, oui. Si caractériser veut dire l'aspect fondamental et premier, non. Vous voyez, c'est l'acte qui caractérise l'unité de l'être en acte. C'est l'acte qui caractérise l'unité de ce qui est. Et la mesure manifeste cette unité. Alors, la mesure, en effet, n'est-elle pas la source de l'unité du mesuré? Oui, la source de l'unité du mesuré par rapport à la connaissance. Mais pas par rapport à la réalité. Par rapport à l'intelligibilité que j'ai de la réalité. Mais pas par rapport à la réalité. Parce que par rapport à la réalité, c'est l'acte qui est la source de l'unité de ce qui est. Bien sûr, la mesure suppose l'indivision, mais elle semble signifier quelque chose de plus. Quelque chose de plus par rapport à ma connaissance. Elle est un moyen par lequel je connais. Donc, elle est un cours. C'est pour ça qu'elle joue le rôle d'un principe par rapport à la connaissance. C'est ça qui est très intéressant dans la mesure. Parce que la mesure va expliquer comment je peux glisser du réalisme à l'idéalisme. Et comment le réalisme, la philosophie de ce qui est du réel, de la réalité, fonde l'idéalisme. Vous voyez, si je remplace l'acte, l'être en acte par la mesure, je vais vers un primat de la connaissance sur ce qui est. Parce que la mesure montre le primat. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que la mesure touche de très près la cause exemplaire. Et le primat de la cause exemplaire, c'est ce que nous retrouvons dans toute position où l'intelligence prime la réalité. Oui, entre cause exemplaire et mesure, c'est très très proche. Parce que la cause exemplaire, c'est justement ce que je porte en moi et qui me permet de mesurer. Quand vous avez une idée, vous mesurez. Ce qui explique les idéologies. Les idéologies mesurent la réalité. Et les idéologies sont mesures de la réalité. C'est le primat de l'idéal et de la cause exemplaire. Vous ne voulez pas regarder le réel, vous regardez que l'idéologie soit respectée. Que l'homme crée, mais que l'idéologie règne. C'est la devise. Hein. Mettez ça comme propagande électorale, c'est merveilleux. Alors que l'idéologie règne. C'est l'idéologie, c'est la cause exemplaire, c'est la mesure. Et c'est le point de vue de la pensée qui prime sur la réalité. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre comment il y a deux faits qui prévalent dans l'ordre de la connaissance, la cause exemplaire. La mesure est première. Alors, je continue. Nous avions remarqué que l'ousia ne suffit pas pour faire pleinement la distinction entre l'être et le devenir. Je vous avais dit que la distinction entre ousia et qualité ne suffit pas entièrement. C'est très vrai. Et nous comprenons très bien pourquoi. Parce que justement, dans l'ordre du devenir, il faut que la puissance soit antérieure. Or, la puissance implique l'ousia. Forcément. Ça ne peut pas être autrement. Et alors, c'est ça qui est important à voir. Donc, vous avez remarqué que l'ousia ne suffit pas pour faire pleinement la distinction entre l'être et le devenir. Par l'indivision, on est en effet au-delà de la quantité et donc au-delà de la matière qu'au principe. Alors, l'indivision, je présume que c'est la mesure, n'est-ce pas ? C'est l'indivision de l'acte. Si c'est l'indivision de l'acte, d'accord. Si c'est l'indivision de la mesure, non. Venez, alors là, la question qui se poserait, est-ce que la mesure suffit pour diviser parfaitement l'être en acte, l'être et devenir ? Ça, c'est une très belle question. Est-ce que la distinction entre la mesure et le mesuré suffit à aller jusqu'au bout de la distinction de l'être et du devenir, ce qui est et le point de vue du devenir. Je continue. Par la mesure, au contraire, on fait intervenir un ordre dans le domaine quantitatif, dans le divisible, tout à fait d'accord. La division de l'être en acte et de l'être en puissance éclaire le devenir. La division de l'être en acte et de ça c'est sûr, ça, on est bien évident que c'est par là qu'on éclaire parfaitement la division de l'être et du devenir. Mais je peux me poser la question, et c'est ça qui pourrait répondre à la question posée, si je regarde uniquement la mesure, est-ce que c'est suffisant ? Le primat de la mesure suffit-il pour aller jusqu'au bout de la distinction de l'être et du devenir ? Et je dis non. Pourquoi ? Parce que si l'intelligence mesure l'être, l'intelligence en mesurant l'être demeure dans le devenir. Le devenir de l'esprit. Et ce n'est pas ce qui est. Et donc, la distinction entre mesure et mesuré, ce qui explique comment dans l'hégélianisme, la division entre le point de vue de l'être et du devenir peuvent être, je dirais, dialectiquement unis. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que l'un et propriété, qui dit propriété, dit quelque chose de relatif à quelque chose d'antérieur qui est l'être en acte. Et donc, la propriété ne suffit pas. La propriété, c'est toujours un peu une... C'est une conclusion. C'est toujours un peu une synthèse. Et donc, ce n'est pas assez analytique pour pouvoir aller jusqu'au bout de la division entre être et devenir. Alors là, je vous dis, c'est un problème très intéressant. Je ne le traite pas. Hein. Mais poser la question, il faut toujours aller toujours jusqu'au bout, hein, au point de vue philosophique. Posez-vous la question, est-ce que la distinction un et multiple suffit à aller jusqu'au bout de la division de l'être et du devenir? Et je dis non. Parce que justement, la division de l'être et du multiple est commune au devenir et à l'être. Vous retrouvez la division de l'un et du multiple en philosophie de la nature et en philosophie première. C'est une division commune. Parce que le mouvement peut être un et multiple. Comme l'être peut être un et multiple. C'est une division commune. Si c'est une division commune, ça ne suffit pas pour comprendre la distinction entre être et devenir. Donc la mesure qui qualifie l'un ne suffit pas à aller jusqu'au bout de la distinction de l'être et du devenir. Ceci pour répondre à cette question, j'espère que vous avez saisi, au moins celui qui a posé la question a saisi, c'est déjà quelque chose. Peut-on encore strictement parler, autre question, hein, peut-on encore strictement parler d'assimilation intentionnelle à l'égard de la ratio actus? C'est de la critique ça, mais c'est bien de le poser. Sinon, comment caractériser le type ultime d'appréhension? Vous voyez la question, j'espère, hein. Chaque fois qu'on saisit un principe nouveau, le principe est saisi dans un jugement, forcément. Si le principe est saisi dans un jugement, tout jugement implique une appréhension. Donc, je dois me poser la question, quelle est l'appréhension qui me permet de saisir la primauté de l'être en acte par rapport à l'être en puissance? Vous voyez bien. J'espère que vous voyez tous la distinction entre appréhension et jugement. C'est une petite distinction très très importante. Hein? Petite distinction très importante que vous trouvez dans Aristote, que vous retrouvez dans saint Thomas. Pas tout à fait de la même façon. Mais vous la retrouvez dans... Et je crois que c'est une distinction qui s'impose à nous à partir du langage. Le langage signale ça. Vous avez des mots. Chat. Chat a une signification, indépendamment de l'existence de tel ou tel chat. Parce que quand vous dites chat, ce n'est pas nécessairement tel chat. C'est chat qui a une signification particulière. Évidemment, pour que je puisse dire chat, il a fallu des chats qui existent. Mais par exemple, hein, si tous les chats de la Terre disparaissaient, une maladie particulière, hein, tous les chats de la Terre disparaissent, eh bien, il resterait le mot chat, au moins dans le dictionnaire archéologique. N'est-ce pas? Il dirait, il y a eu des chats, le dinosaure. Hein? Il y a eu ces animaux très particuliers. Ils sont dans les musées des restes. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir ça. Et vous pouvez voir cet animal très extraordinaire. Il a existé. Donc, ça a une signification. Mais il n'existe plus. Il n'existe plus, grâce à Dieu. Si il n'existait pas, je ne sais pas ce que je ferais, non, mais il n'existe plus. Bon, et le chat peut-être disparaîtra, c'est possible. Mais le mot chat a sa signification, indépendamment de l'existence. C'est pour ça que dit Aristote, le mot est au-delà du temps. Tandis qu'au contraire, le verbe est lié au temps. Ce chat existe. Tel chat existe. Le chat comme chat n'existe pas si ce n'est dans la tête de celui qui pense à lui. N'est-ce pas? Je pense au chat. Alors, en pensant au chat, il existe dans ma tête. Mais il existe dans ma tête selon un mode intentionnel. C'est par là que je fais la distinction entre appréhension et jugement. Vous voyez la distinction entre les deux. L'appréhension, c'est la signification simple, champ. Le jugement, ce champ existe. Donc, dès qu'il y a un jugement, il y a nécessairement une appréhension. Ça ne peut pas être autrement. Et pour qu'il y ait une appréhension, il faut qu'il y ait un jugement. Vous n'avez jamais eu une appréhension sans jugement. Ce qui est aussi très important, sauf si vous êtes cartésien. Si vous êtes cartésien, vous dites que vous avez des appréhensions sans jugement. Et c'est là où Descartes tourne le dos à Aristote. Et il le dit expressément. Il dit, le tiesti est antérieur au to auto. Donc, le tiesti, la signification des mots, est antérieure à l'existence de la chose. Et donc, pour Descartes, il y a des idées innées. Bon, s'il y a des idées innées, il peut y avoir des idées indépendamment du jugement. Comme pour Dieu, vous voyez, comme toujours, l'antise de Dieu. Les théologiens disent qu'il y a en Dieu une science de simple appréhension. Il resterait beau de dire une science de simple appréhension, où Dieu connaît en lui-même tous les possibles. Dieu, mais vous voyez, Descartes oublie que Dieu se connaît et que Dieu existe. Et donc, c'est à l'intérieur encore d'une contemplation existant. Dieu se connaît. Et en se connaissant, il connaît tous les possibles. Tandis que pour Descartes, on connaît tous les possibles sans l'existence. Oui, passage très très joli. La laïcisation de la contemplation de Dieu fait les idées innées. Et ça, c'est nettement hein, une laïcisation d'une contemplation par rapport à Dieu. Dieu a la connaissance des simples possibles, mais cette connaissance des simples possibles est à l'intérieur de sa contemplation. C'est à l'intérieur de sa contemplation. Alors, on va séparer le point de vue du jugement d'existence et on va regarder que les idées innées. Très intéressant de voir comment est née les idées innées. Les idées innées, on pourrait dire que c'est une vieille réminiscence de Platon, vous voyez. Mais faisons attention, pour Platon, ce n'est pas des idées innées dans le sens de Descartes, c'est des formes idéales qui existent. Donc, le jugement d'existence est présent, mais la distinction entre l'appréhension et le jugement d'existence n'est pas donnée. Tandis que dans Descartes, il y a une distinction entre l'intuition que j'ai des idées innées et du jugement d'existence. Il y a une distinction très nette. Et c'est pour ça qu'il peut dire que l'interrogation du tiesti, qu'est-ce que c'est, est antérieure au jugement du to-oti, le fait d'exister. Oui. Alors, pour Descartes, c'est net. L'appréhension est antérieure au jugement. Alors, à ce moment-là, j'ai des idées innées indépendamment du jugement. Mais je crois que c'est une erreur. Je crois que tous que nous avons dans notre appréhension présuppose un jugement. D'où le problème. J'ai un jugement particulier. Un jugement qui me fait saisir la division de l'être en acte et de l'être en puissance. Si j'ai ce jugement particulier par lequel je saisis que ce qui est en acte est cause selon la fin de ce qui j'ai donc là un jugement. J'ai donc là un principe propre. Si j'ai la saisie de ce principe propre grâce à l'induction, j'ai donc une appréhension. Cette appréhension porte sur quoi? Cette appréhension porte sur ce que saint Thomas dit ratio actus. Saint Thomas dit ça très rarement, mais il le dit. Mais je ne crois pas que c'est une erreur. Saint Thomas parle de ratio actus. Et il parle de la ratio actus comme justement ce qui est l'ultime saisie de l'appréhension. L'appréhension dans ce qu'elle a de tout à fait ultime à travers le jugement propre qui se porte sur l'être en acte saisit l'acte. Il y a une ratio actus. Vous avez bien les trois degrés que saint Thomas dit à propos de l'appréhension. il y a l'appréhension du tout confus. Le petit matin. L'appréhension du tout confus, le petit matin. Il y a un brouillard. Surtout sur les Nordiques. Hein, il y a un brouillard du petit matin. Hein, j'ai un brouillard opaque. Alors le tout confus. Puis, on saisit la crudité en plein midi. Et le soir, la race. J'en ai progressé toute la journée, n'est-ce pas ? Alors, il y a les trois degrés. Il y a le tout confus, la crudité, la ratio actus. C'est très beau, ça. Saint Thomas le dit. C'est trois aspects, c'est trois niveaux de l'appréhension. Très net. Alors, la question qui se pose, vous voyez, est-ce que peut-on encore strictement parler d'assimilation intentionnelle ? L'assimilation intentionnelle est parfaite au niveau de la crudité. Ça, c'est sûr. J'appréhende l'acuité de champ. J'appréhende l'acuité de animal. Tous, nous avons appréhendé quand même l'acuité d'animal en plein midi. Le matin, nous avons resté dans le brouillard, et puis là, quand même. Hein, est-ce que nous avons monté plus haut ? Ça, c'est différent. Très différent, parce que nous en avons atteint la ratio à tous. Tout dépend si vous avez saisi par mode inductif la division de l'être en acte et de l'être en puissance. Vous l'avez saisi un tout petit peu. Vous l'avez saisi un petit peu, mais difficilement. Alors, si on a saisi un tout petit peu, évidemment, l'appréhension de la ratio à tous reste un peu vague. Alors, peut-on strictement parler d'assimilation intentionnelle ? Eh bien, je crois que quand je parle d'assimilation intentionnelle, je dis qu'il y a trois niveaux d'assimilation intentionnelle. Il y a un niveau confus, un niveau proprement dit, puis un niveau analogique. C'est encore une assimilation intentionnelle. Mais c'est une assimilation intentionnelle, évidemment, qui n'a pas la même netteté, mais qui a une profondeur beaucoup plus grande, qui n'a pas la même netteté, puisque je suis à un niveau analogique. Le concept analogique, hein, parce que s'il y a ratio, il y a concept. Forcément, il y a un concept de l'acte. Il y a un concept de l'être. Il y a un concept de l'acte. C'est pour ça que je peux en parler. Et ce concept reste un concept analogique. S'il reste un concept analogique, c'est un concept qui pénètre beaucoup plus avant dans la réalité, mais qui reste confus. Oui, qui reste confus. Vous voyez ça ? Sinon, comment caractériser ce type ultime d'appréhension ? Donc, tout simplement, une assimilation intentionnelle qui a un mode analogique. Et c'est l'analogie qui sauve tout. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, hein, quand je dis analogique. C'est-à-dire qu'on saisit quelque chose, cette ratio actus, mais toujours lié à ces modes. C'est pour ça que c'est si important de voir les cinq modes. Je ne peux pas saisir la ratio actus sans saisir en acte ces modes, mais pas explicitement, mais d'une manière confuse. Quand je saisis la ratio actus, je saisis ces cinq modes. Et c'est pour ça que c'est important de les expliciter. Parce qu'une fois que je les ai explicités, je saisis mieux comment la ratio actus implique cela. Quand vous saisissez la ratio actus, vous saisissez, laissez le bien, le vrai, l'opération vitale, tout ça, les modalités, les diverses modalités de l'acte, sont saisies en acte et d'une manière confuse. Sont saisies d'une manière non explicite. C'est ça que je veux dire analogique. Tandis que quand vous saisissez le point de vue de animal, vous ne saisissez pas dans un animal raisonnable. C'est toute la différence qui existe entre la saisie univoque, l'assimilation univoque de la crudité et l'assimilation de la ratio actus. Quand vous saisissez animal, vous saisissez d'une façon très précise ce concept animal dont la signification est précise, elle est univoque. Et dans animal n'est pas contenu rationnel. L'animal peut être raisonnable, mais l'animal n'est pas toujours raisonnable. Vous savez bien. Il n'est pas toujours raisonnable. Et il peut être raisonnable. Et tandis que la ratio actus est toujours, et c'est bien vrai, opération vitale, toujours. C'est ça qui est intéressant à voir. D'un côté, la différence spécifique est extérieure au concept univoque du genre, c'est extérieur. Et donc, la différence spécifique vient actuer de l'extérieur. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du concept analogique, la modalité du concept analogique, de l'intérieur, vient actuer la ratio actus. La ratio actus est de l'intérieur actuée par ces diverses modalités. Oui. Donc là, c'est la différence qui existe entre le concept univoque et le concept analogique. Voyez bien ça, pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions, il faut les poser. C'est l'heure. Bon. Alors, la dernière fois, je crois que nous avions vu l'un et le multiple, et je vous avais dit que je n'y reviendrai pas, parce que c'est très complexe. Je souligne que l'un et le multiple, c'est la question de la mesure, et le point de vue de la causalité exemplaire. Parce que c'est intéressant de voir où naît la causalité exemplaire. La causalité exemplaire ne naît pas au niveau du principe, au point de vue métaphysique, mais au niveau de la propriété. Ce qui explique comment la causalité exemplaire naît dans le néoplatonisme et dans Platon. Regardez le Parménide de Platon. Dans le Parménide de Platon, vous avez une sorte d'induction de l'idéal. Et vous voyez bien qu'au sens tout à fait rigoureux, il n'y a pas d'induction de l'idéal, sauf dans la philosophie de l'art. La philosophie de l'art, et alors nous retrouvons, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. La philosophie de l'art induit la cause exemplaire, mais la métaphysique n'induit pas la causalité exemplaire. La causalité exemplaire n'est pas une cause propre de ce qui est en tant qu'être. La causalité exemplaire est une propriété de ce qui est comme être. Et elle est cause propre de l'activité artistique, par le point de vue de l'idéal. Mais l'idéal n'est pas immédiatement relié à la philosophie, à la distinction de l'être en acte et d'être en puissance. C'est encore une autre manière de voir comment le point de vue de la philosophie de l'art n'est pas immédiatement illuminé, éclairé par la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Ça, c'est très important de bien saisir ce que c'est que la causalité exemplaire. La causalité exemplaire, donc c'est une causalité qui est dans l'intelligence en premier lieu. Elle n'est pas premièrement dans la réalité. Vous voyez, quand les stoïciens disent cette chose admirable, hein, le philosophe, c'est celui qui est né pour être exemplaire. Natus sunt ut exemplar. C'est Sénèque qui dit ça. C'est une phrase qu'il faut retenir parce qu'elle est frappée à la manière de Sénèque. N'est-ce pas ? Natus sunt ut exemplar. C'est beau ça. Je suis philosophe, donc je suis né pour être exemplaire. Toupet, c'est bien. Je suis philosophe, donc je suis né pour être exemplaire. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez bien, on ne peut pas naître dans la réalité pour être exemplaire. Il n'y a que Dieu qui est cause exemplaire de toutes les autres réalités. Parce qu'il crée dans sa sagesse. Alors je peux dire que Dieu est cause exemplaire. Mais moi, est-ce que je suis cause exemplaire? Quand saint Paul dit, c'est pas si mal quand saint Paul dit, hein, imitez-moi, suivez-moi, hein, c'est la cause exemplaire. Hein. Quand saint Ignace de Loyola, au début, quand il raconte sa vie, et qu'il cherchait l'exemple, imitez saint François d'Assise, imitez tel ou tel saint, imitez la cause exemplaire. Alors, vous voyez, ce serait très intéressant de chercher ça. Est-ce que, de fait, une réalité en tant que créée peut-elle être cause exemplaire? Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut être cause exemplaire, au sens fort. Dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la vie divine, c'est différent. Les saints sont exemplaires en tant qu'ils sont saints, parce que le Christ est exemplaire en tant qu'il est l'homme Dieu. Il est la tête exemplaire. Vous voyez, il joue ce rôle. Mais dans l'ordre surnaturel, on peut le dire, dans l'ordre surnaturel, la causalité exemplaire intervient comme une causalité réelle. Mais pas en philosophie, elle n'intervient qu'au niveau de la philosophie de l'art. Et donc la causalité exemplaire est toujours une causalité qui naît de l'intelligence. C'est là.